Voilà, ce matin, j'ai à cœur, bien sûr, d'aborder une prédication sur la Pentecôte. Alors, j'ai intitulé mon message « Naissance et accomplissement de l'Église ». On va voir dans quel sens cette prédication s'applique à ce titre. Donc, d'abord la naissance. La Pentecôte, c'est la fête qui a été instituée par Dieu depuis chez les Juifs, hein. Et à cette date-là, eh bien, le Saint-Esprit est descendu après avoir vu Jésus monter au ciel à l'Ascension. Donc c'était le jeudi. Enfin, on fête le jeudi et le dimanche. Donc 9 jours après, c'est la Pentecôte. Et c'est la naissance de l'Église. C'est là que l'Église a commencé. Donc vous avez le Saint-Esprit qui est venu sur les disciples, mais aussi sur les 3000 qui étaient là. Et il y a eu comme des langues de feu qui sont apparues sur les 120, sur tous ceux qui étaient dans la chambre haute. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et ils ont annoncé la parole de Dieu. On va lire dans Acte 1. Ce passage qui nous parle de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Amen. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure pendant la louange, c'est qu'on chante les louanges du Seigneur et les chants que nous chantons, c'est pour parler des merveilles de Dieu, pour parler de ce que Dieu a fait au travers de Jésus. Eh bien, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Ils parlaient sans même savoir toutes ces langues, hein, puisque c'était des Galiléens. Ils n'étaient pas, vous voyez, Pierre, il n'avait aucune éducation, hein. Il était pêcheur, il connaissait l'araméen, mais il parlait ces langues et il parlait des merveilles de Dieu. Sans même le savoir, hein, ils entendaient les merveilles de Dieu que les disciples, les 120, prononçaient. Ils étaient tous dans l'étonnement. Verset 12. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Verset 37, je passe tous les autres versets. Verset 37, après avoir entendu ce discours, donc le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, en ce jour-là, et le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes.
Amen.
Pardon ? Ah oui, j'ai passé à acte 2. Ouais. Voilà le récit. Bon, je l'ai un peu tronqué parce que sinon il est très très long. Vous le lirez chez vous. Ce récit de la Pentecôte, c'est un événement extraordinaire, bien sûr, dans toute son ampleur. Et rappelez-vous que Jésus, quand il a commencé son ministère, Jésus qui est venu comme un homme, comme un bébé, il a grandi dans la famille de Joseph et de Marie, avec des frères et sœurs d'ailleurs. Et quand il a commencé son ministère, il était baptisé. Voyez-vous, le baptême est toujours au début pour marquer une onction. Il a été oint du Saint-Esprit, Christ. D'ailleurs, Christ veut dire oindre, Messie, oindre. Il a été oint du Saint-Esprit en tant qu'homme, bien qu'il soit Dieu, mais ça c'est un mystère. Mais en tant qu'homme, fils de l'homme, il s'est toujours déclaré fils de l'homme, en tant qu'homme, il a été oint du Saint-Esprit et il a commencé son ministère. On ne peut pas exercer un ministère, quel qu'il soit, sans être oint du Saint-Esprit. Alors même dans la Pentecôte, enfin dans les gens qui ont vécu le réveil, voilà, ils étaient très très soucieux de respecter ceux qui sont oints, particulièrement ceux qui apportent la parole, les évangélistes ou autres. Bon, il ne faut pas aller trop loin dans ce respect, si vous voulez, parce qu'en fait, nous, on reste un homme, hein, même si on est oint en tant qu'homme, on reste un homme, donc fragile et sensible à toutes sortes de choses qui pourraient blesser. Mais on doit être oint du Saint-Esprit. Quand on accepte le Seigneur, tout dépend comment vous avez reçu, vous, le Saint-Esprit, enfin, comment vous êtes né de nouveau, parce qu'il faut naître de nouveau. Il y a plusieurs façons de naître de nouveau. Michel, elle est née avec une Bible sous le bras, dans le sens où ses parents étaient chrétiens, évangéliques, pentecôtistes, et vraiment consacrés. Et du coup, elle a toujours entendu parler du Seigneur, parler de Jésus, tout ça. Et elle dit que, voilà, elle est un peu jalouse de ceux qui, voilà, viennent de la drogue, qui ont fait des larcins et tout ça, et qui, d'un seul coup, reçoivent la révélation. Ben, c'est extraordinaire. Regardez Paul. Paul, il persécutait les chrétiens. Et qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il est tombé du cheval avec une lumière incroyable. Les autres n'ont pas vu ce qui s'est passé, simplement ils étaient choqués. Vous voyez, c'est un miracle surnaturel, spirituel, qui souvent est... Moi-même, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, ça durait plus d'une heure, dans une église où il y avait 600 personnes, je ne pouvais plus bouger. J'étais rempli de, je ne sais pas, 1 million de volts qui me traversaient. Et tout le monde, enfin, les pasteurs devaient attendre que ça se termine. Vous pouvez... J'étais totalement conscient hein, des autres, mais je ne pouvais plus. Parce qu'on est rempli du Saint-Esprit comme un vase se laisse remplir. Et si vous n'avez pas expérimenté ça, eh bien, je vous invite à le chercher. Parce que là, vous n'êtes plus la même personne. Parce que vous avez senti quelle est la puissance surnaturelle de Dieu qui peut vous conduire, peut vous diriger. Et là aussi, vous avez une meilleure crainte de Dieu. Concernant les fêtes, donc on est à la Pentecôte. Aujourd'hui, on fête la Pentecôte. Les fêtes bibliques ont été demandées, instaurées par Dieu, pour un caractère pédagogique. pourquoi on fête les anniversaires de nos enfants ou nous-mêmes, etc. C'est simplement parce que les années passent, d'une année sur l'autre, hein, rien de particulier souvent. Mais ça nous permet de nous rappeler certaines choses. C'est l'occasion, eh bien, de marquer le coup. Donc les fêtes bibliques, c'est pas la fête en elle-même, hein, si ce n'est que la Pentecôte. C'était déjà fêté par les Juifs. À ce moment-là, l'Église a reçu cette onction de l'Esprit pour démarrer l'Église. Mais aujourd'hui, on continue à fêter, 2000 ans après, cette fête de Pentecôte. Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler. C'est comme la Pâque juive. Ils se sont toujours rappelés le passage de la mer Rouge. Parce que c'est un événement spectaculaire pour libérer le peuple de Dieu qui était en esclavage de l'Égypte. Et nous avons été libérés de l'esclavage de notre nature charnelle qui est vouée au péché et qui nous entraîne toujours dans des choses mauvaises. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, nous avons besoin d'une nouvelle nature, nous avons besoin d'être libérés dans notre personnalité ancienne pour pouvoir le servir. Sinon, on ne peut pas le servir efficacement. Dans Exode, chapitre 23, verset 14, Dieu a demandé que 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur, voyez-vous, en l'honneur de Dieu. C'est pour ça, ici, dans l'Église, souvent, on dit Noël, il faut le célébrer pour l'honneur de Jésus, hein, parce que le monde, qui ne connaît pas Jésus, il célèbre les cadeaux. Donc on peut donner des cadeaux aux enfants, ce n'est pas le problème. Mais en tant que chrétien, il faut d'abord leur dire que nous célébrons, eh bien, la fête de Jésus, la naissance de Jésus. Tu observeras la fête des pains, il est dit dans Exode, sans levain, donc c'est la Pâque. Tu observeras la fête de la moisson, donc là c'est la Pentecôte. Les prémices de ton travail, c'est les premières gerbes, on les voit d'ailleurs dans les champs actuellement. De ce que tu auras semé dans les champs et la fête de la récolte à la fin de l'année. Donc vous voyez, ces 3 fêtes qui ont été instituées par Dieu, qui devaient être fêtées dans l'Ancien Testament. C'est les 3 fêtes majeures qui nécessitaient des pèlerinages, c'est-à-dire que les Juifs devaient se déplacer à Jérusalem pour les fêter à Jérusalem. Ces 3 fêtes, donc, c'est le passage que je viens de lire, c'est les 3 fêtes, c'est donc la fête de Pâques, qui s'appelle aussi la fête des pains sans levain, des azymes. C'est parce qu'à ce moment-là, bon, il y a tout un cérémonial pour ceux qui ont déjà pu voir une fête de Pâques juive. Il y a beaucoup, beaucoup de symboles qui renvoient à Jésus. La fête des prémices, prémices, ça veut dire les premières récoltes, les premières gerbes qui ont poussé de céréales. Et ça s'appelle aussi Shavuot. La Shavuot, c'est-à-dire la fête des semaines, parce qu'il y a 7 semaines qui sépare Pâques de la Pentecôte. Ensuite, la fête des trompettes, la Rosh Hashanah en juif. Rosh Hashanah, ça veut dire le nouvel an. C'est la nouvelle année. En fait, il y a 2 années, l'année spirituelle qui commence à Pâques et l'année civile qui commence en septembre-octobre avec la Rosh Hashanah. C'est l'année civile de juive. Et là, il y a 3 fêtes qui se succèdent. C'est-à-dire, il y a un premier temps, une semaine, une autre semaine, et ensuite après, encore une autre semaine. La fête des trompettes, c'est le début. Donc, démarrer cette fête avec des trompettes, avec des cors, une manifestation bruyante pour signaler ce début d'année. Ensuite, la fête des expiations, donc c'est le Yom Kippour, qui célèbre donc le pardon, le grand pardon, hein, qui était une fois par an, qui est lié aussi donc à l'institution de cette fête où le souverain sacrificateur rentrait une fois par an pour le péché de tout le peuple. Et les cabanes, ou les tabernacles, qui sont érigés pour rappeler le souvenir du passage dans le désert. Alors en face de ça, alors quand je dis le christianisme œcuménique, c'est-à-dire celui où catholiques, protestants, évangéliques, tout le monde est d'accord, vous voyez, c'est ça que œcuménique, ce christianisme reconnaît 4 fêtes, voire 5 avec le Vendredi Saint. Voilà. Donc c'est Noël, hein, le christianisme. Alors là, il n'y a pas d'équivalent chez les juifs, sauf la Hanouka, mais c'est beaucoup plus tard. Ensuite, le Vendredi Saint, pas d'équivalent, puisque c'est la mort de Jésus, hein, le vendredi. Pâques, alors là, vous voyez, on retombe sur la Pâque juive, hein, qui est fêtée, et au lieu d'être le passage de la mer Rouge, c'est le passage de la mort à la vie des êtres humains par Jésus. L'ascension, donc c'est un jeudi, puisque c'est toujours 40 jours après, et la Pentecôte, qui retombe sur la fête des prémices, ou la fête de Shavuot, et la fête des trompettes, en fait, personne, plus ou moins, la fête. Par contre, nous, dans l'Église, j'ai depuis une vingtaine d'années, eh bien, on la fête, et je vais vous dire comment. C'est pas qu'on le fait comme les Juifs, mais il y a une similitude pour que chaque année nous puissions nous rappeler, vous voyez, parce qu'on a tendance à s'endormir dans la vie chrétienne, nous rappeler, à revoir, à revivre en fait toute la liturgie chrétienne et la réalité de la doctrine chrétienne. Je vous passe dans le calendrier pour bien visualiser un petit peu ces fêtes. Les fêtes juives, donc c'est Pâques, c'est le début de l'année spirituelle, de l'année religieuse des Juifs, hein, qui manifestent la délivrance, le salut. Ensuite, la Shavuot, donc c'est les premières gerbes sur le plan de la biologie, hein, sur le plan des semences qui sont récoltées. Donc on a les premières gerbes qui apparaissent et qui doivent être célébrées chez les Juifs. Et ensuite, la Rosh Hashanah, donc la fête des trompettes, avec la corne d'abondance, c'est la fin des récoltes. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans le passage. Donc vous voyez, c'est aussi une reconnaissance de ce que Dieu bénit la nature pour subvenir à nos besoins. Donc ça, c'est les Juifs. Les chrétiens, donc il y a ces 5 fêtes. Donc Pâques, hein, qui tombe sur la Pessa. C'est pas toujours les mêmes dates parce que les Juifs sont sur la Lune, nous on est sur le Soleil, mais c'est la même signification de la fête. Ensuite, la Pentecôte, donc en face de la Shavuot, hein, la Pentecôte juive. Et après, il y a Noël, donc qui pour nous est le début avec le 1er janvier de l'année civile, vous voyez. Le Vendredi Saint, donc qui est la mort de Jésus. Et 3 jours après, c'est la Pâque, donc 3 jours avant la mort de Jésus et à Pâques, la résurrection de Jésus. Et l'ascension. Donc l'ascension, c'est 40 jours après Pâques et c'est 9 jours avant la Pentecôte. Et c'est très très précis. Et l'ascension, c'est Jésus qui, dans son corps glorifié, va rejoindre le Père. Et démarre un siècle, c'est le siècle à venir, dans lequel Dieu nous permet d'entrer. Nous sommes dans 2 siècles, le siècle présent et le siècle à venir. Siècle, ça ne veut pas dire forcément 1000 ans, hein. C'est une ère, c'est une distribution de temps. Donc on rentre, quand on accepte Jésus, on peut goûter du siècle à venir, tout en étant dans le siècle présent. C'est tout l'enseignement du royaume de Dieu. Et il y a une fête prophétique qu'on devrait fêter, que les Juifs fêtent, parce qu'ils attendent aussi le Messie. Eh bien, c'est la fête des trompettes que nous on fête, qui est la manifestation du retour de Jésus. Jésus revient. Et en tant que Foursquare, que l'évangile, le plein évangile ou l'évangile quadruple, eh bien nous, on fête justement le fait que Jésus va revenir. Amen. C'est le déjà pas encore du royaume. Voyez-vous, le royaume est là, Il est spirituel, mais il n'est pas encore là. Donc, il y a une tension. Il y a une tension entre ce que nous sommes dans la chair et ce que nous sommes dans l'esprit. Et c'est cette tension qui est difficile à gérer en tant que chrétien. Et que c'est pour ça qu'il faut qu'on soit ensemble dans une église pour se soutenir et s'encourager, parce que notre corps qui est là, hein, qui nous tire vers le bas, vers la mort, et notre esprit qui nous tire vers le ciel, vers la vie, eh bien c'est cette tension qui est difficile à gérer. Et c'est pour ça qu'il y a des églises qui sont là pour nous aider mutuellement à nous soutenir. Amen. La fête de l'Ascension que vous voyez là, en fait, elle est sous-estimée chez les protestants, chez les chrétiens, chez les catholiques, non. Moi, j'étais sermon de messe toute mon enfance. L'Ascension était très très importante. Vendredi saint, non, là, je parle de vendredi saint. Enfin, toute la semaine sainte, comme on dit, hein, voilà. Parce qu'en fait, on se rappelait vraiment la mort de Jésus. Et aujourd'hui, voilà, chez les protestants, on se rappelle la résurrection, c'est vrai. Mais avant la résurrection, il y a eu la mort de Jésus. Et dans la mort de Jésus, eh bien, il a porté tous nos péchés. Et c'est absolument important que nous le faisons, bien sûr, dans les chants. Mais le fait est, c'est remarquer le moment où nous nous rappelons que Jésus a souffert. Il a souffert jusqu'à la mort pour que nous puissions être sauvés. Donc cette fête qui est sous-estimée chez les protestants, eh bien, elle serait bien que voilà, elle a sa place. Elle a sa place, même si nous ne le fêtons pas physiquement dans l'église. Il y a la fête qui est absente, donc c'est la fête des trompettes, Rosh Hashanah, la sainte convocation. Et elle renvoie, et là je terminerai là-dessus tout à l'heure, à la parabole des 10 vierges. Vous vous rappelez les 10 vierges? Jésus a parlé de cette parabole. Il y a 5 vierges qui sont folles et 5 vierges qui sont sages. Et qu'est-ce que les vierges sages ont fait par rapport aux folles, hein, qui ne l'ont pas fait? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Pardon? Voilà. Ils avaient suffisamment d'huile. Ils avaient, voilà, un conteneur qui permettait de remplir l'huile, parce que ils savaient pas quand le maître allait arriver. Nous, est-ce qu'on sait quand le maître va arriver? Mais donc, il faut qu'on ait de l'huile. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça aussi que ce matin, on a dit, il faut nous laisser remplir du Saint-Esprit. Donc, cette huile qu'ils avaient leur permettait, quand la lampe était à sec, hein, quand il y avait plus de... Ils pouvaient la remplir. Et les vierges folles, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles n'en avaient pas. Elles n'en avaient pas. Et comme par hasard, alors qu'elles allaient chercher au magasin ou je ne sais pas où leur huile, eh bien le maître est revenu. C'était trop tard. Elles ont loupé le maître. Voyez-vous, cette parabole nous enseigne de veiller et de prier. Il nous enseigne la prière. Et je vois qu'en tant que pasteur, hein, c'est très très difficile d'amener les chrétiens à la prière. Bien sûr, on prie pour nos besoins, tout ça, voilà, ça, il n'y a pas de problème. Mais prier pour se consacrer à Dieu, pour être devant le Seigneur, pour prier pour les autres aussi, pas que pour nous, eh bien, c'est très très difficile. On a, eh bien, cette parabole qui nous rappelle que ça peut être dangereux. De délaisser justement la prière, hein, parce que le maître peut revenir d'un instant à l'autre. Amen. Nul ne sait le jour ni l'heure. La fête de l'Ascension, je vais juste rappeler, j'en ai parlé dimanche dernier, je vais pas m'attarder là-dessus. Elle est attestée, cette fête, depuis le 4e siècle. Donc très tôt, après l'Église primitive, eh bien, elle correspond à la fin de la vie terrestre de Jésus. Et c'est pour ça aussi que les chrétiens n'arrivent pas à bien comprendre le royaume, parce qu'il y en a qui disent, ah oui, non, mais Jésus règne, oui, il règne dans le ciel, mais il règne pas sur la terre. Et les chrétiens voudraient qu'il règne sur la terre. Non, il était sur la terre, il est parti. Donc aujourd'hui, il règne pas sur la terre. Hello? Il y en a qui sont scandalisés par ça. Mais ça, c'est l'Écriture qui nous rappelle. Il ne règne pas sur la terre. Par contre, il voudrait régner dans nos cœurs. Et au travers de nous, il peut régner. Imparfaitement, je vous l'accorde. Mais c'est le seul moyen qui règne, c'est au travers des chrétiens. Donc vous voyez la responsabilité que nous avons en tant que chrétiens. C'est de laisser régner Dieu dans nos cœurs. Et plus nous allons obéir à sa parole, plus le royaume de Dieu peut régner. Mais si nous mélangeons la parole avec ce que nous croyons, moi je crois, moi je pense, le Seigneur ne peut pas régner. Il a besoin de régner au travers de chrétiens qui sont engagés, qui sont consacrés. L'ascension marque le début d'un type de présence du royaume différent. Avant l'ascension, enfin avant Pâques, avant sa mort, il était présent avec ses disciples. C'était un homme, tout en étant Dieu, qui faisait des miracles parce qu'il était loin du Saint-Esprit. À l'ascension, il s'en va. Il s'en va. Et réellement, il s'en va. Il n'est plus là. Il n'est plus sur la terre. C'est pour ça qu'on ne le voit pas, il est invisible et pourtant présent dans nos cœurs. Mais il est là. Dans Matthieu 28, verset 20, Jésus dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Dis à ton voisin, à ta voisine, « Le Seigneur est là avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dites-le entre vous. Voyez-vous, ça s'appelle la foi. C'est-à-dire, nous mettons foi dans la parole, dans ce que Jésus a promis. Vous dites amen ? Ça, c'est la foi. Vous ne le voyez pas ? Est-ce que vous voyez Jésus, là ? Non ? Non, vous ne voyez pas. Et pourtant, vous le croyez parce que vous l'aimez, parce que vous lui avez donné votre vie, parce que vous voulez qu'il puisse diriger votre vie. Voyez-vous ? Donc plus vous avez la foi, et bien plus le Seigneur peut agir au travers de vous et en vous. Amen. Les Actes des Apôtres rapportent que pendant les 40 jours, donc il y avait 40 jours entre Pâques et l'Ascension, ces 40 jours, Jésus est apparu aux disciples. Et il a dû vraiment briser cette croyance que les morts ne ressuscitent pas. D'ailleurs, je vous l'ai dit dimanche dernier, les sages, les plus grands sages d'Athènes, les Grecs, qui étaient des grands sages, eh bien, quand ils entendaient parler de résurrection, ils disaient « Non, t'es fou, Paul. » Voilà. Pourquoi ? Parce que revenir dans un corps qui est voué à la mort, revenir dans un corps qui est imparfait, revenir dans un corps qui souffre, c'est tout, mais c'est complètement débile. Donc on ne veut pas t'entendre. Donc ce message ne passe pas. Or, c'est exactement ce que les apôtres et puis les disciples de Jésus, pendant ces 40 jours, ont dû apprendre. Ils ont dû apprendre que la résurrection, ça existe. Ça n'a jamais existé depuis l'origine, mais là, Jésus est réellement ressuscité. Il avait les marques des clous, il avait un corps de résurrection, bien sûr, il dit « ne me touche pas », parce que c'est un corps, vous savez, un peu comme si vous touchez l'atome, hein. C'était une sorte de corps atomique, hein, puisqu'il traversait les murs, il traversait, il venait, il apparaissait, etc. Et c'est ce corps que nous aurons. Mais ils ont dû voir qu'il était quand même encore un homme, puisqu'il mangeait, avec eux, il mangeait du poisson, il allait... Voilà. Donc tout ça... C'est ce qu'on appelle un changement de vision du monde. C'est un changement complet. Et là, il faut 40 jours. 40 jours, c'est symbolique d'une épreuve. C'est une épreuve pour eux, pour que leur témoignage, après cela, après l'ascension, puisse être canon. Et que même si on les persécute, même si on les met sur une croix, comme c'est le cas de Pierre, d'André, etc., eh bien, ils savent que c'est vrai. Ils savent que c'est juste, ils savent. Vous voyez, c'est ça la foi. C'est ça la foi. Est-ce que vous êtes capable d'accepter de mourir si on vous dit, ben non, est-ce que tu crois à la résurrection, tout ça, vous voyez. Et ça, c'est l'épreuve. Est-ce que nous, on est capable de cela? Je ne sais pas, parce qu'il faudrait peut-être attendre la réelle épreuve pour le savoir. On ne peut pas le savoir avant. Ceux qui sont dans les pays souvent persécutés, ils en savent quelque chose. Les trois jours où Jésus est mort et ressuscité, c'est le signe de Jonas. C'est pour ça que Jésus dit, vous n'aurez pas d'autre signe que celui de Jonas. Parce que ce temple qui est là, Jérusalem, il a été détruit, et moi en trois jours je le relèverai. Vous voyez, les apôtres ont dit, mais non, il est complètement fada, Jésus, c'est pas possible. Mais il parlait de son corps à lui. Vous voyez, c'est des symboles différents. Il parlait de son corps qui allait trois jours après ressusciter, qu'il y avait à avoir un nouveau temple dans lequel Dieu va habiter. La durée symbolique des 40 jours, donc pour l'ascension, c'est une durée d'épreuve, comme les 40 jours dans le désert, comme les 40 jours de jeûne de Moïse au mont Sinaï, les 40 jours d'errance du prophète Élie, les 40 jours de Christ qui passe au désert, c'est toujours 40. Hein, et les 40 jours avant la destruction de Ninive. Voyez-vous, c'est parce que les chiffres sont des symboles et renvoient à une réalité de l'épreuve, réalité de ce que nous, on doit changer de mentalité, on doit changer de pensée. Voyez, quand on est dans la foi, on ne peut pas être en même temps dans la chair et dans l'esprit. La foi, ça nécessite de saisir la parole de Dieu et de la croire comme si c'était vrai, comme si nous la voyons de nos propres yeux. Dans l'évangile de Luc, verset 24, le tout dernier évangile, le tout dernier chapitre de Luc, c'est l'un des plus fascinants qui existe, où il y a ce double mouvement, un mouvement vers le haut et un mouvement vers l'avant. Jésus monte au ciel, l'ascension, c'est ce que Luc décrit, il monte au ciel, il regarde vers le ciel, et là il y a les anges qui disent, parce qu'à un moment donné ils ne le voyaient plus, et les anges qui disent, mais ne continuez pas à regarder là-haut, c'est en avant, je vous envoie dans le monde. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il y a aussi cette tendance de chrétiens qui sont mystiques, c'est-à-dire qui s'attendent à ce que Dieu vienne, mais Dieu, il est là, il est monté au ciel, et il trône, il est à la droite de Dieu, mais en même temps, il nous demande d'annoncer la parole, d'annoncer le royaume, donc d'aller dans la mission. Jésus monte au ciel, et les disciples sont envoyés en mission, où ça ? Dans toutes les nations. C'est là que ça change. C'est-à-dire, avant, c'était Israël. Dieu choisit Israël. C'est un pays, une nation, dans laquelle il a donné sa parole, il a donné voilà, ses commandements, etc., pour que, il puisse être le peuple de Dieu. Là, c'est toutes les nations, mes amis. Là, il y a beaucoup de nations qui sont représentées ce matin. Mais c'est toutes les nations vers lesquelles nous devons aller. Et maintenant, les nations viennent vers chez nous, en France. Hein. Donc, c'est le moment, effectivement, d'annoncer la parole de Dieu à toutes les nations. Ça, c'est l'envoi, qui est différent de ce que Jésus avait donné à ses disciples. Rappelez-vous, il a dit, n'allez pas vers les païens, allez vers les juifs. Donc, pendant qu'il était là, il a annoncé le royaume aux juifs. Et quand Jésus est parti vers le Père, a dit maintenant, vous annoncez à toutes les nations. Le Seigneur veut renouveler notre message. Un message qui est à nouveau basé sur la repentance. Vous voyez, on revient au message que Jean-Baptiste et Jésus avaient. C'est-à-dire que c'est la repentance. Non pas la repentance comme Jean-Baptiste l'a annoncé. C'était une repentance pour tous les péchés qu'ils avaient commis. Là, c'est leur repentance dans le nom de Jésus. Vous voyez, c'est en Christ que nous devons nous repentir, parce que lui, il a donné sa vie. Donc c'est la repentance en vue du pardon des péchés pour lesquels Jésus a donné sa vie. Une autre force que nous avons, qui est liée à l'ascension, c'est que nous avons de nouvelles ressources. De nouvelles ressources pour annoncer la parole. Dans Luc 24, 46, il est dit, Jésus leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et là, on retrouve la promesse à Abraham, dans Genèse 12, verset 3. « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » C'est pour ça que en Israël, on remonte à Moïse, et à Jésus, on remonte à Abraham. Parce que Abraham, il a reçu la promesse qui s'accomplit en Jésus et dans l'Église. Une autre puissance que nous avons, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Parce que quand on nomme quelque chose, on désigne une réalité. Et le nom de Jésus, c'est celui, d'ailleurs les apôtres, ils guérissaient au nom de Jésus. Ils délivraient au nom de Jésus. Ils ne le faisaient pas en leur nom. Notre nom, moi mon nom n'a absolument aucune puissance spirituelle, aucune puissance dans ce monde. C'est un nom, voilà, parce que j'ai hérité de mes parents. Voilà. Et on ne met pas son orgueil dans le nom. L'apôtre Paul, d'ailleurs, qui était un des plus cultivés de son époque, disait « Je regarde toutes ces choses comme de la boue ». Par contre, il les utilisait pour son message. Ça ne veut pas dire qu'il faut cracher sur ce qu'on doit utiliser de notre intelligence. D'ailleurs, Wesley l'a bien dit. Mais le nom n'a pas de puissance. Par contre, le nom de Jésus a une puissance. Pourquoi ? Parce qu'il est dans le ciel. Aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. Et il a toute autorité sur toutes les puissances hostiles à Dieu. Que ce soit la maladie, que ce soit les puissances spirituelles, diaboliques, etc. Et les démons. Donc nous avons l'autorité du nom de Jésus. Ensuite, nous avons la puissance du Saint-Esprit. Voyez-vous, c'est le Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte. Et il était envoyé par qui, le Saint-Esprit ? Pardon ? Pardon ? Ah, merci Charles. Les deux. Pardon ? On monte à touche. Non, mais c'est ceux qui ont étudié le royaume de Dieu, ils le savent. C'est les deux en même temps. Comme d'ailleurs, le royaume est là, il n'est pas là. Vous voyez, c'est des paradoxes. On est dans des paradoxes. Il ne faut pas essayer de trouver une logique que nous, on a appris 1 plus 1 égale 2. Non, 1 plus 1 égale aussi 3. Vous voyez, c'est des logiques qui intègrent, qui nous dépassent. Mais il faut les accepter. Et là, effectivement, eh bien, le Saint-Esprit a été envoyé par Jésus. Il a dit, je vous enverrai un consolateur, je vous enverrai celui. Parce qu'il a l'autorité pour l'envoyer, et le Père également, il a envoyé son esprit. Donc nous sommes bénis. Nous avons une puissance sur nous qui est à notre disposition, qui est le Saint-Esprit, qui est envoyé par le Père et par le Fils pour accomplir les mêmes choses, et même au-delà de ce que Dieu a fait, de ce que Jésus a fait. Il a dit, vous aurez encore plus de puissance, parce que la puissance est illimitée. C'est le Père et le Fils qui envoient le Saint-Esprit. Et ensuite, nous avons la bénédiction de Jésus. Dans Luc, chapitre 24, verset 50, il les emmena jusque vers Béthanie. Béthanie, c'était à côté de Jérusalem. Puis il leva les mains et les bénit. On est béni du Seigneur. On est béni par Jésus. On est béni par celui qui est assis à la droite de Dieu. Et nous avons cette bénédiction. Nous sommes les êtres les plus bénis de toute la terre qui puisse exister. Est-ce que nous le réalisons ? Et enfin, cet élan de l'ascension qui monte, que Jésus monte, eh bien, ça doit nous apporter une nouvelle attitude. Une nouvelle attitude. Dans Luc, toujours chapitre 24, verset 51, pendant qu'il les bénissait, vous voyez, pendant que Jésus les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel pour eux, après l'avoir adoré. Voyez-vous, ce que je disais tout à l'heure, après l'avoir adoré. C'est la première fois qu'on voit le terme adoré qui arrive auprès des disciples. Avant, il avait suivi, Il était leur maître, hein, il était leur enseignant. Tandis que là, comme il n'est pas là, il l'adore. Après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et vous, quand on est dans l'adoration, on est rempli de joie. Vous connaissez ce chant qui parle de la joie? Voilà, la joie de l'Éternel est ma force. Et la force de l'Éternel est ma joie. Voyez-vous, la joie va ensemble avec le Saint-Esprit. Vous voyez, C.S. Lewis, vous connaissez Narnia? Vous avez vu Narnia? Non? Quels sont ceux qui ne l'ont pas vu? Je vous invite à le voir, Narnia. Ah, il faut voir. Bah, C.S. Lewis, il était athée. Il était athée. Et simplement dans son athéisme, il a cherché Dieu. Et il l'a trouvé. Il l'a trouvé dans son athéisme. Il a trouvé Dieu. Et c'est là qu'il a fait ces magnifiques récits qui maintenant sont au cinéma. Et il a rencontré la joie. Il a écrit un petit livre qui dit Le ciel est rempli de joie. C'est des murs de joie. Comme s'il y avait des briques de joie. C'était ça. Quand il a rencontré Jésus, il a rencontré la joie. Et d'ailleurs, son livre, c'est La joie. Amen. Est-ce que vous aimez la joie? Eh ben, si vous adorez Jésus, eh bien, vous rencontrez la joie, mais la vraie joie, celle qui ne passe pas, celle qui demeure, celle qui vous donnera la capacité, eh bien, de surmonter tous les obstacles. Amen. La joie du Seigneur est ma force. Amen. Alors, la Pentecôte, il faut quand même que j'arrive à la Pentecôte, mais ce sera très court. La Pentecôte qui suit l'ascension. La Pentecôte célèbre la naissance de l'Église. Et vous, là, pour l'instant, je n'ai pas parlé d'Église. J'ai parlé de Jésus, mort, ressuscité, ascension. Et maintenant, c'est l'Église. Donc, c'est la naissance de l'Église. De la même manière que dans Genèse, vous avez Adam, et Ève a été tirée de la côte d'Adam. Elle n'existait pas. Elle a été créée. Adam a été créé de la terre, de la glaise, et Ève de la côte d'Adam. Et bien, de la même manière, l'Église, elle n'est pas née comme ça, elle est née du côté de Jésus. C'est Jésus qui, en envoyant son esprit, a créé l'Église. C'est la naissance de l'Église. C'est la nouvelle Ève, si vous voulez, l'épouse, puisqu'il parle d'épouse. Nous sommes l'épouse. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule Église. Il n'y a pas 36 Églises. Les Églises locales, c'est l'émanation de l'Église universelle. Ça, c'est différent parce que tous les chrétiens ne peuvent pas être dans une même pièce, bien qu'à la fin, nous serons tous ensemble. Nous serons tous réunis. Mais l'Église, il n'y en a qu'une. C'est ceux qui appartiennent à Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus, c'est tout. Donc, ceux qui parlent de dénomination, ben, tout ça, ça n'a pas de sens. Dénomination, c'est parce qu'on est dans une imperfection de compréhension de la parole, etc. Nous ne sommes qu'une seule Église. C'est-à-dire, Éphésiens 4, hein, le dit clairement, il n'y a qu'un seul corps. Il n'y a qu'un seul corps. Jésus n'a pas plusieurs corps. Il n'a qu'une seule épouse. Voilà. Donc on devrait, eh bien, le réaliser. Et cette épouse va revenir. Voyez? Elle va revenir. Et c'est ça le sens de la fête des trompettes, de la fête de Rosh Hashanah. Par exemple, là, vous avez à droite, vous avez la Jérusalem qui est décrite déjà dans l'Ancien Testament comme un cube. Alors, ne me demandez pas pourquoi c'est un cube, mais le corps est un cube, hein, donc 10 puissance 3, un cube qui va descendre. Donc, ça, c'est le corps qui descend. C'est la nouvelle Jérusalem qui est en train de se constituer dans le ciel. Toi qui as donné ta vie à Jésus, tu es déjà dans cette nouvelle Jérusalem. Sauf qu'il faut qu'elle soit complète jusqu'à la fin, exactement comme ça s'est passé avec l'arche de Noé. Vous vous rappelez l'arche de Noé? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'arche de Noé? La chronologie des événements. Noé, je crois que c'était 120 ans, hein, qu'il a mis à construire son arche. C'est un truc énorme. Il a construit. Et ensuite, après, une fois que c'est déconstruit, il a fait rentrer tous les animaux, mais que sa famille. Et les autres étaient dehors, parce qu'ils ne croyaient pas. Ils disaient, Noé, il est fêlé. En plein désert, il construit une arche. Ben, c'est la foi, c'est ça la foi. C'est que si toi, tu crois Jésus, alors que tous les autres ne croient pas autour, ben, toi, tu es dans la bonne direction, parce que toi, tu fais le bon choix. Parce que aujourd'hui le déluge n'est pas là, mais le déluge va arriver. C'est quoi le déluge? C'est le jugement. Quand Jésus va revenir, il va juger. Le jugement, c'est une réalité, mes amis. Et pour échapper au jugement, il faut accepter Jésus dans sa vie. Et nous ne serons pas jugés, puisque nous sommes couverts par le sang de Jésus. Mais cette Jérusalem, qui est en train de se constituer l'épouse, hein, je pense souvent quand je fais ce message à Florence et Cédric, hein, voilà, ils attendent, hein, ils étaient fiancés, après ils attendaient le moment de se marier civilement, mais enfin, le vrai mariage, vous l'attendez dans la bénédiction spirituelle. Bon, ben, il y a une attente. Mais ben, nous, on est dans cette attente, voyez-vous? On est en fiançailles. On sait que notre fiancé est là, qu'il est tout puissant, qu'il règne sur tout l'univers, que rien ni personne, vous voyez, c'est pas Zorro, hein, c'est bien au-delà de Zorro, il peut tout faire. Et nous sommes en train, par la foi, de constituer cette épouse. Et jusqu'à la fin, et la fin, ce sera quand? C'était la fin avec Noé, c'était parce que c'est les parallèles avec Jonas, avec Noé, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin avec Noé quand il avait fini, que tout le monde est rentré dans l'arche et tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon? C'est Dieu qui a fermé la porte. C'est pas lui. C'est Dieu qui a fermé la porte. Relisez le texte. Voyez-vous? C'est que à un moment donné. Bien sûr, ceux qui ont réalisé que le déluge allait arriver, ils voulaient rentrer. C'est Dieu qui décide. Hello? C'est Dieu qui décide. C'est pour ça les vierges folles et vierges saintes s'appliquent, mes amis. Ne restez pas des vierges folles. Remplissez votre personne du Saint-Esprit pour être prêt au bon moment. Parce que c'est Dieu qui ferme la porte. Dieu fermait la porte de l'arche, Dieu va fermer la porte de l'église. Le dernier qui va rentrer après c'est fini, et Jésus va revenir. Durant ce temps, les 2000 ans, et encore d'autres années devant nous, plus de 2 siècles, cette épouse se développe et grandit. Et c'est tout l'enseignement d'Éphésiens 4:2, en vue de la construction du corps de Christ, dira Paul. Il envoie des ministères, les 5 ministères, apôtres, prophètes, etc. On pourrait faire tout un message là-dessus, pour accroître la croissance de l'Église, du corps de l'Église. Amen. Et je termine par la fête des trompettes. Donc la fête des trompettes, aujourd'hui, ça a du sens. Et moi, je vais à nouveau organiser cette fête à la rentrée, fin septembre, début octobre. Cette fête célèbre le retour de Christ. Il y en a qui croient ici au retour de Christ, hein, que Jésus revient. Des posters, mais qui sont tombés au fur et à mesure parce qu'on les avait accrochés comme ça. Ça, c'est le symbole du retour de Jésus dans l'évangile quadruple, l'évangile Four Square, si vous voulez. Que ce soit CMI ou que ce soit Four Square, Jésus revient. Et l'épouse, qu'est-ce qu'elle crie, l'épouse, dans Apocalypse? Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit? Viens, Seigneur Jésus. Est-ce que dans votre cœur, vous dites, viens, Seigneur Jésus. Amen. Moi, en tout cas, je le dis. Parce que c'est trop dur de vivre ici. C'est trop dur. C'est terriblement dur. Et plus ça va, plus c'est dur. Plus même les chrétiens deviennent hostiles. Voyez. Pourquoi? Parce que il n'y a que Jésus qui est le prince de paix. Jésus qui va complètement nous sauver. Sauf que nous n'allons pas continuer à regarder vers le vent, nous allons annoncer l'évangile. Rappelez-vous l'ascension. Regardez Jésus et être envoyé dans toutes les nations. Mais nous voulons le célébrer et veiller. Et là où je mettrai l'accent, c'est qu'on devienne des veilleurs. Voyez? Donc cet évangile, ce plein évangile, c'est Jésus sauve, la croix. Jésus guérit, c'est la coupe. Jésus, alors soit baptise ou soit consacre, je préfère le mot Jésus consacre, et Jésus revient. Ça, c'est les quatre angles qui sont absolument importants pour nous et ça doit nous pousser à veiller. Être des veilleurs et des veilleuses. J'aime pas trop le mot veilleuse, mais c'est le féminin de veilleur. Être des veilleurs, être des veilleuses. Et je me rappelle, je vois en étudiant l'histoire de l'Église que toutes les générations vivent la même chose. Et pas que la nôtre. Toutes les générations, les pasteurs qui sont consacrés, ils voient les chrétiens qui vont dans le monde. Toutes les générations, que ce soit au 1er siècle, au Moyen Âge, etc. Le dernier que j'ai étudié, c'est Wilfred Monod. Wilfred Monod, il a créé la Fraternité des Veilleurs en 1923. 23, c'est là où, ici, cette ville a été créée. Parce que c'est incroyable, même les étudiants en théologie, ils ne croient plus en Dieu, vous voyez, déjà à l'époque. Hein. Donc aujourd'hui, c'est pareil, l'homme ne change pas. L'homme se tourne vers les idoles de ce monde, et les chrétiens aussi. Et donc, nous, dans cette église, on veut être des veilleurs et des veilleuses. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a demandé de faire une chapelle en bas, un endroit qui est consacré à la prière, à veiller. Et c'est la chapelle du phare. Le phare, parce que nous devons rester un phare. Nous devons continuer à être cette lumière, non pas sur le boisseau, mais être une lumière pour ceux qui nous entourent, et en particulier pour nous dans tout ce GPSO. Amen. Que le Seigneur nous aide, et que cette fête des trompettes que nous allons fêter, à la rentrée, où il y aura des temps de proclamation, il y aura des temps de repentance, il y aura des temps de célébration, il y aura des temps de joie, parce que tout ça va ensemble. Et ça va ensemble, un certain rythme différent, mais ces trois fêtes qui se succèdent, Rosh Hashanah, Yom Kippour et les Huttes, eh bien, nous, on peut le vivre à la manière chrétienne, pour que nous rappeler que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Que notre avenir n'est pas sur la terre. Notre avenir, attention, il est sur la terre avec Jésus qui va la changer, c'est le millénium. Hein. Donc ça, c'est encore un autre enseignement. Jésus va revenir sur terre. Il va établir sa royauté sur toutes les nations également. Et là, on rentre dans une autre dimension de l'enseignement. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci Seigneur pour la Pentecôte. Qui nous rappelle, Seigneur, que l'Église est née à ce moment-là par l'action du Saint-Esprit, par le témoignage des apôtres qui ont témoigné que pendant ces 40 jours jusqu'à l'ascension, ils t'ont vu ressusciter, ils t'ont vu vivant. Et c'est pour ça qu'ils ont pu mourir malgré les persécutions qu'ils ont subies, parce qu'ils savaient que tu es vivant, Seigneur. Et aujourd'hui, nous le croyons parce que nous sommes sur le fondement des apôtres et des prophètes, et que, Seigneur, nous le croyons par la foi. Mais, Seigneur, un jour, nous le verrons, nous te verrons tel que tu es. Tu vas te manifester, Seigneur, au monde entier, Seigneur. Et ce temps arrive, Seigneur. C'est ta venue, c'est la parousie, c'est la présence. Parousie, c'est la présence de Dieu parmi son peuple. Eh bien, Seigneur, nous nous louons, nous te louons pour ce moment pour lequel nous nous réjouissons à l'avance. Et nous te demandons que tu fasses de nous, de cette église, des veilleurs et des veilleuses pour que, Seigneur, nous ne nous endormions pas. Tu as reproché à tes disciples de ne même pas pouvoir veiller une heure. Et Seigneur, les temps sont difficiles. Mais Seigneur, nous avons une espérance extraordinaire, une expérience merveilleuse, Seigneur, de notre avenir. Et nous voulons le partager, Seigneur, avec tous ceux qui sont autour de nous. Nous voulons, en tant que corps local, Seigneur, être éveillés et non pas endormis. Éveille-nous, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur. Et que nous puissions être, Seigneur, à ta gloire et que ce que nous disons, nous puissions le vivre, Seigneur, avec autorité, avec une audace, Seigneur. Nous te le demandons, Père, au nom puissant de Jésus. Amen.